Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À notre humanité désorientée qui ne sait plus trouver Dieu ou qui le défigure, qui cherche sur quelle parole fonder son espérance, Élisabeth de la Trinité donne le témoignage d'une ouverture parfaite à la parole de Dieu. Ces mots sont ceux de Saint Jean-Paul II lors de la béatification de la Carmélite, découverte aujourd'hui d'Élisabeth de la Trinité qui peut, comme l'espérait ce saint pape, nous aider à trouver les voies de la prière et du don de nous-mêmes. Élisabeth de la Trinité, la sainte de l'amour avec un grand A. À l'occasion de la venue de ses reliques à Toulouse, nous découvrons la vie et le charisme de cette jeune fille du début du XXe siècle. Et pour cela, nous sommes avec le frère François Marjat, carme au couvent de Toulouse. Bonjour frère François.
Bonjour Isabelle.
Merci de venir nous parler aujourd'hui d'Élisabeth de la Trinité, cette sainte du Carmel, canonisée le 16 octobre 2016 par le pape François.
Exactement.
Alors, on va juste poser quelques repères biographiques avant d'entrer dans toute la spiritualité d'Élisabeth. Son nom, elle s'appelle Élisabeth Cathé, je ne sais pas si on dit le Z.
Cathé, je pense.
Elle naît en 1880, elle reçoit de sa mère le goût de la prière et l'amour du Christ. Son caractère colérique s'apaise, peu à peu au fil de ses communions. Son père meurt quand elle a 7 ans. La cellule familiale se resserre autour de sa mère et de sa petite sœur. Elle entre au Carmel à sa majorité. On verra que ça a été une longue attente pour elle. Mmh. Et à 26 ans, Élisabeth de la Trinité meurt des suites de la douloureuse maladie d'Addison. Un an avant, elle composait cette prière devenue célèbre dans le monde entier. « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », que nous écouterons en pause musicale. Voilà pour ces petits repères chronologiques. Il faut quand même qu'on commence, frère François Marjat, par ce lien particulier qui unissait Élisabeth à sa mère. Il y avait vraiment une grande affection qui les liait, au point que la plus grande punition qui pouvait être donnée à Élisabeth, c'était la privation des caresses de sa mère. Comment ce lien affectif a-t-il fait grandir Élisabeth, non seulement dans l'amélioration de son caractère, mais aussi dans sa croissance spirituelle?
Alors, de fait, le lien entre Élisabeth et sa mère est d'une tendresse extraordinaire, ça, il faut le reconnaître. Et sa mère a dû, donc, en quelque sorte, dresser Élisabeth qui piquait des colères absolument fantastiques.
Elle avait un caractère volcanique,
oui.
Lit-on.
Elle était à la fois d'une très grande sensibilité, on pourrait dire un cœur pur, très aimant. Et en même temps, il a fallu que sa maman apprenne à discipliner ses colères qui étaient mémorables. On entendait à la limite dans la rue, quand elle tambourinait du pied. Alors en fait, il y a eu à la fois, je dirais, l'œuvre de la grâce, certainement, et puis aussi les efforts qu'Élisabeth a faits pour arriver à se corriger. Parce qu'Élisabeth voulait faire plaisir à sa maman, elle se rendait compte qu'elle était insupportable à son entourage, donc elle a travaillé sur elle-même, comme on dit. En même temps, il y a eu l'œuvre de la grâce, la première confession, qui a joué un rôle aussi.
Elle voulait faire plaisir aux autres, elle voulait faire plaisir à sa maman, elle voulait faire plaisir à Jésus aussi.
Certainement. Alors, en fait, ce qu'on remarque chez elle, enfin, les témoins, dans la famille, son institutrice, à domicile, en paroisse, on voit qu'elle a une très grande capacité de recueillement. Elle a un don de recueillement qui contraste effectivement avec son tempérament volcanique.
Et oui, c'est ça qui est étonnant. Oui.
Dans lequel on a pu dire que bouillait le sang de son papa officier.
Ah oui, c'est ça, son côté guerrier. Alors,
exactement,
peut-être.
Oui, ouais, une guerrière, oui.
On le disait au début de cette émission, elle perd son papa à l'âge de 7 ans. C'est une épreuve pour toute la famille, mais en fait, elle est quand même d'une grande maturité spirituelle. Comment elle vit cette période du deuil?
Alors, pour elle, c'est quand même un grand chagrin. De fait, il y avait une grande affection entre le papa et son aîné, Élisabeth. Elle composera une poésie bien années après pour célébrer, si l'on peut dire, cet événement où son père lui a été ravi. Mais sa foi lui a permis de se consoler d'une certaine manière, sachant qu'elle aimait que son papa était au ciel et qu'il veillait sur la famille.
Oui, donc ça lui a permis de garder son regard, de tourner son regard vers le ciel plutôt que de rester sur sa tristesse.
Certainement, oui.
Oui, c'est ça. Alors, pour terminer sur ses relations avec sa mère, donc vous disiez que Frère François Marjac, sa mère l'a aidé, a aidé Élisabeth de la Trinité à dompter ses colères. Il y a eu aussi cette demande qu'Élisabeth a fait assez tôt d'entrer au Carmel, et là, sa mère s'y est opposée.
Tout à fait. Alors, c'est là où on voit, si vous voulez, l'ambivalence mais positive des rapports entre Élisabeth et sa maman. À savoir que Élisabeth a reçu très tôt l'appel clair du Carmel. D'ailleurs, le Carmel était en face de la maison des Cathèses, disons pratiquement.
Oui, on ne pouvait pas y échapper. Alors.
Élisabeth voyait le mur de clôture et le clocher de la chapelle du Carmel depuis la fenêtre de sa chambre. Bon. Donc, Élisabeth... vers l'âge de 14 ans et peu après, donc, après s'être consacrée donc, à Dieu, par une grâce de l'Esprit-Saint, Élisabeth se sent poussée à se consacrer à Dieu, et peu après, elle sait que sa place est au Carmel. Alors la maman donc, est tout à fait contre. Il faut aussi remonter un peu dans le temps. C'est qu'à l'âge de 8 ans, en vacances, la petite Élisabeth elle a fait une confidence au chanoine Angle, hein, le grand ami de la famille, comme quoi elle voulait être religieuse et ça avait affolé la maman. Hein. Oui. Mais le chanoine Angle avait bien déclaré à la maman qu'elle est à Dieu avant d'être à vous. Oui. Alors, tout ça, donc, ça mûrit dans l'âme d'Élisabeth, bien sûr. Hein, et arrivée donc à l'adolescence, elle sait que sa place est au Carmel, mais sa maman, justement, lui interdit d'avoir tout contact avec le Carmel.
Qu'est-ce que cette épreuve, cette attente forge dans le caractère et dans la foi d'Élisabeth ?
En fait, c'était très bénéfique pour Élisabeth et même pour nous. Élisabeth a compris qu'en fait, elle devait vivre le Carmel dans le monde. Construire ce qu'elle appelle sa cellule intérieure. La cellule intérieure, si vous voulez, c'est Catherine de Sienne. Hein. Catherine de Sienne qui a vécu justement en temps un peu, on pourrait dire, tertiaire de l'ordre de Saint-Dominique, au XIVe siècle. Et elle prenait l'habitude de se réfugier dans sa cellule intérieure. Ça veut dire quoi, la cellule intérieure? C'est la présence de Dieu dans l'humilité, si vous voulez, l'humilité et la confiance. Donc Élisabeth va apprendre à vivre cette vocation carmélitaine dans le monde. Ce qu'il vit aujourd'hui, oui, d'ailleurs, il est nécessaire d'être dans un cloître pour vivre le Carmel, on peut le vivre dans n'importe quel contexte de vie. Bon. Et alors, elle est donc très soumise, très obéissante envers sa maman, d'ailleurs qu'elle aime énormément. Hein. Bon. Et sa grande souffrance, bon, c'est non seulement de ne pas pouvoir avoir des contacts avec le Carmel, qui est pratiquement à sa porte, mais en même temps de faire souffrir sa maman. Une des grandes souffrances d'Élisabeth sera de constater qu'elle fait souffrir sa maman. Hein.
En entrant au Carmel.
Oui, oui.
Même si elle a attendu donc, l'âge de sa majorité, 21 ans.
Oui, 21 ans à l'époque. Mmh. Et étant au Carmel, elle passera son temps à écrire des lettres pour dire à sa maman qu'elle est très heureuse, hyper heureuse, en même temps qu'elle la remercie du fond du cœur de lui avoir permis de goûter ce bonheur du Carmel.
Mmh. Mmh. Est-ce que la maman s'en est remise finalement d'avoir laissé sa fille partir au Carmel ou pas?
C'est pas évident qu'elle s'en soit remise.
Ouais.
Elle a accepté certainement, c'est une femme très chrétienne, hein, qui d'ailleurs lisait les Saint-Thérèse d'Avila. Hein. Dans sa jeunesse. Bon. Elle l'a accepté, oui, je dirais, peut-être avec une certaine forme d'héroïsme, bon. Mais dire qu'elle s'en est remise, puis après, Élisabeth est décédée quand même.
Oui, assez jeune, à 26 ans.
Très jeune, à 26 ans. Bon. Et sa maman lui a dit, elle ne m'a jamais laissé d'espoir de guérison. Bon. Mais elle l'a accepté de manière très chrétienne. Élisabeth lui avait dit, peu avant de mourir, quand tu apprendras mon décès, bien, dis, mon Dieu, vous me l'avez donné, vous me l'avez reprise, que Dieu soit béni. Bon. Et c'est ce qu'elle a fait par la suite, en se mettant à genoux.
Oui, une belle attitude d'humilité,
oui.
Et d'obéissance,
oui,
en tout cas. Oui. Alors, vous l'avez évoqué, Frère François Marjac, la première communion, la première confession d'Élisabeth de la Trinité ont été un tournant. Alors, elle a fait sa première communion à l'âge de 11 ans. C'était le 19 avril 1891, sa première confession. Et elle a fait aussi sa confirmation 2 mois après.
C'était
assez rapproché, en fait, tous ces sacrements. Son amour pour Jésus, présent dans l'Eucharistie, ne cesse de s'affermir. Qu'est-ce qu'on sait à partir de ces sacrements, de cet amour pour Jésus.
Alors, c'est vrai que lors de sa première communion, il s'est passé quelque chose. Elle pleurait, si vous voulez, de joie. Et au sortir de l'église, donc Saint-Michel à Dijon, donc, les enfants, évidemment, peut-être ils sont un peu... ils pensent au repas qu'ils vont faire, mais elle, elle déclare à sa grande amie, donc Marie-Louise Allot, fille de militaire, dont les parents connaissent les catéses, elle lui déclare « Je n'ai pas faim, Jésus m'a nourri bon. ». Et ce n'est pas un mot, si vous voulez, en l'air, hein, c'est une réalité. Bon. C'est pour dire qu'après, elle n'a pas mangé de bon appétit. Et donc, dans l'après-midi, après le repas, elle va au Carmel, selon la coutume donc des familles de Dijon qui sont en lien avec une carmélite. Hein, bon. Donc, et la prière du Carmel lui révèle son nom, Elisabeth, ça veut dire « maison de Dieu ». En fait, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la signification du terme hébreu, mais bon, quoi qu'il en soit, maison de Dieu, ça va l'inspirer toute sa vie.
Oui. Et donc, quand elle communie, elle prend vraiment conscience que Dieu habite en elle, c'est ça ?
Alors,
avec ce prénom ?
Elle a pris conscience dès son plus jeune âge, en fait. Ça s'est affirmé avec le temps. Il y aura vraiment une étape très importante. Là, j'essaie de résumer une vie qui est très riche.
Hein. Oui.
Courte vie, mais quand même très riche. Qui est d'ailleurs jalonnée, comme vous le dites, par les sacrements de l'initiation chrétienne. Bon. Baptême, Eucharistie, confirmation. Bon. Donc, Elisabeth, peu de temps avant de rentrer au Carmel, va rencontrer un dominicain, un grand prêcheur, le père Vallée, qui, au cours d'un entretien, va lui révéler que son âme est le temple de la très sainte Trinité. Bon, elle le sait déjà sans doute, mais lui, il va peut-être lui parler pendant peut-être une heure, deux heures, bon, au point de la saouler d'ailleurs. Bon. Alors, en fait, elle va vivre, sa vocation sera de vivre de manière expérimentale cette parole de Dieu que Jésus donc déclare au soir de la scène, au chapitre 14e de Saint Jean, c'est dans le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons une demeure chez lui. Et c'est ce que Elisabeth appelle le grand rêve du cœur de Dieu. De toute éternité, Dieu rêve de faire sa demeure au sein de son peuple et au sein des fidèles. Au sein et la grâce du baptême fait de nous le temple de la très sainte Trinité. C'est ce qu'Elisabeth va vivre de manière expérimentale, alors que souvent nous, on le vit de manière intellectuelle.
Oui, c'est ça. Elle le vit dans sa chair,
oui.
En fait. Hein. Oui, c'est
tout
ça.
À fait.
À propos de sa première confession, la mère Germaine, qui était sa prieure au Carmel,
oui.
Confirmera, Elisabeth elle-même m'a confié que sa résolution vraiment réfléchie et persévérante de se vaincre dans ses violences, donc dans ses colères,
oui.
Date de ses premières confessions. On voit qu'il y a quand même un avant, un après, et elle a vraiment,
elle a
vraiment
oui.
Changé. Hein.
Oui. Alors, encore une fois, c'est le mystère de l'œuvre de la grâce dans l'âme d'Elisabeth qui fait des efforts.
Oui.
Elle fait des efforts sur elle-même. Hein. Et sa motivation, c'est d'être agréable envers sa maman hein, et sa sœur. Bon. Sa sœur Marguerite qui l'a...
Sa petite sœur.
Qui l'a suivi 3 ans après.
Oui, c'est ça, sa petite sœur. Alors, c'est vrai que parfois, sa piété pouvait inquiéter. Et sa maman pouvait se dire à certains moments, oh là là, elle a une piété trop intense. Mais en fait, Elisabeth dit, mais Jésus est de plus en plus en moi et elle l'appelait le bien-aimé de l'Eucharistie.
Alors, reparlons de l'Eucharistie. C'est vrai que Elisabeth, comme les saints du Carmel, avait un très grand amour de l'Eucharistie. Pour elle, Jésus, c'est le bien-aimé de l'Eucharistie. Et un certain nombre d'années, je ne sais pas si 7 ans après sa première communion, justement, elle écrit un poème pour célébrer d'une manière, on peut dire, cosmique, comme si cet événement concernait toute la création, ce qui est vrai d'ailleurs, quand on communie, ça concerne toute l'Église, bon, on peut dire même la création, et donc elle célèbre cet événement, et sa grande joie est de passer de longues heures devant le Saint-Sacrement, quand il était exposé dans la chapelle du Carmel de Dijon.
Et ces heures passées devant le Saint-Sacrement la nourrissent.
Oui.
Et entretiennent ce dialogue, finalement, avec celui qu'elle appelle le bien-aimé.
Au point, justement, de prendre conscience, et c'est la vocation du baptisé, ce qu'on appelle le sacerdoce royal, à savoir que notre vocation est eucharistique. On doit faire de nous-mêmes une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Et son idéal va être de devenir une hostie vivante, un ciboire vivant. Et elle invite ses correspondants, à commencer par sa sœur, qui entre-temps s'est mariée, alors qu'Élisabeth est au Carmel. Et sa sœur, qui est Marguerite, donc il n'y a que deux petites filles, leur dit « Soyez des ciboires vivants, des hosties. » Et c'est l'arrêté d'autres vocations baptismales.
Mmh. Qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui, nous, cette invitation à être un ciboire vivant? C'est quand même pas tous les jours qu'on entend ça.
Ben, c'est une invitation, je dirais, à vivre notre vocation chrétienne de telle façon que, en fait, on se réfère à Saint Paul. Élisabeth est une grande lectrice de Saint Paul. Tout ce que nous faisons soit être pour la gloire de Dieu, que nous mangeons, nous buvions, nous soyons dans la joie ou la peine, c'est pour soit être pour la gloire de Dieu.
Donc c'est ça, c'est tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, c'est le faire pour la gloire de Dieu.
Exactement,
c'est
oui.
C'est ça, cette expression d'être un ciboire vivant.
Alors que souvent, c'est plutôt on travaille pour notre gloire, bon, notre
oui,
gloriole.
Ça c'est vrai. Bon. Oui. J'aimerais qu'on parle de ce grand talent qu'avait Élisabeth de la Trinité pour le piano. Elle entre au Conservatoire de musique de Dijon à l'âge de 8 ans. Elle reçoit plusieurs prix d'excellence. Elle a vraiment une oreille musicale et un recueillement qui font qu'elle est une grande écoutante des autres, de ses amis, mais aussi de la parole de Dieu. En quoi ce charisme d'approfondissement de l'Écriture sainte, vous avez parlé de Saint Paul, mais plus largement de l'Écriture sainte, nous éclaire-t-il aujourd'hui?
Mais je pense qu'Élisabeth nous simplifie la vie, excusez-moi du terme, dans la pratique de ce qu'on appelle l'oraison, le cœur à cœur, si, avec le bon Dieu en silence, hein, même la prière en général. Elle nous ramène à la présence de Dieu que nous devons écouter dans le silence. Hein. Ce qu'on appelle la lectio divina. Hein. Et Élisabeth est un don réel de lectio divina, lieu des grâces de l'Esprit Saint, qui l'ont permis de sélectionner les textes majeurs qui délimitent, enfin, qui déterminent la vocation du chrétien, du laïc baptisé. Hein. Notamment Saint Paul. Saint Paul, dans lequel elle trouvait ses délices. Elle a trouvé d'ailleurs sa vocation de manière très précise, vocation de louange de gloire, en méditant le prologue de la lettre aux Éphésiens, où ce refrain revient, ce long prologue, si vous voulez, qui fait un peu le désespoir des traducteurs.
Vous pouvez nous en donner
quelques-uns. C'est une phrase grecque, si vous voulez, d'un seul tenant, mais le refrain, c'est « Nous sommes créés à la louange et à la gloire de Dieu ».
Et pourquoi ça pose problème, cette phrase?
C'est une longue période grecque, si vous voulez. Bon, on la découpe après pour que ce soit compréhensible en français. Bon. Donc là, Saint Paul, ou celui qui a écrit la lettre aux Éphésiens, bon, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Saint Paul qui l'écrit, mais c'est un écrit canonique, a récupéré cet hymne qui nous, qui finalement nous introduit dans la liturgie chrétienne primitive, ce qui est très émouvant d'ailleurs.
Hein. Ah oui.
Nous sommes vraiment de plein pied dans la liturgie des premiers chrétiens.
Donc cette parole de Dieu habite et nourrit vraiment la prière d'Élisabeth de la Trinité. Vous avez parlé de Saint Paul. Est-ce qu'il y a d'autres textes la touchent particulièrement?
Alors bien sûr, Saint Jean, donc, que j'ai cité.
Oui. Aussi.
Alors dans Saint Jean, bien sûr, il y a Dieu est amour. Bon. Alors justement, le Dieu, si l'on peut dire, quelle image de Dieu se fait Élisabeth? Eh bien, c'est ce qu'elle appelle le Dieu tout amour, qui nous a trop aimés. Alors, trop aimé, ça veut dire quoi? Remarquez, aujourd'hui, on emploie cette expression. Hein.
J'aime trop.
Oui, oui.
C'était
trop
bien.
Trop aimé, c'est la traduction latine, si vous voulez, de l'Épître aux Éphésiens, hein, dans son immense amour, si vous voulez. Hein. De toute éternité, Dieu nous a appelés à être saints et immaculés en sa présence. Saints et immaculés en sa présence. Et c'est une vocation que nous devons réaliser. C'est le projet de Dieu, ce que Thérèse appelle le rêve éternel de Dieu sur nous, mais nous devons travailler à correspondre à ce rêve éternel de Dieu avec le secours de la grâce divine. Et ça suppose, je dirais, accueillir en quelque sorte sa pauvreté.
Oui, c'est ça.
Et ce qui est frappant chez Élisabeth, c'est que sa vie contemplative s'appuie sur une très grande humilité et une pauvreté acceptée. Vivre conscient de sa pauvreté, de sa misère. Alors, En se référant d'ailleurs à la tradition spirituelle, elle cite volontiers le psaume 41, dans sa, le double abîme. L'abîme de notre pauvreté doit être englouti par l'abîme de la miséricorde divine.
Ah, magnifique.
Et, c'est, et ça, c'est à mon avis le propre de toute vie chrétienne.
Oui, bon. Oui, tout à fait. Un dernier mot sur la parole de Dieu pour Élisabeth de la Trinité.
Alors, elle passe son temps à citer la parole de Dieu dans ce qu'on appelle les traités spirituels. Alors, bon, à la fin de sa vie, dans les derniers mois, elle a rédigé ce qu'on appelle les traités, adressé le premier à sa sœur qu'on appelle le C dans la foi, pour reprendre l'expression d'Élisabeth. Ensuite, la dernière retraite, l'intention de ses mères prieurs. Bon. Et puis aussi, une lettre écrite à une jeune amie d'Élisabeth. Et ces trois écrits s'appuient vraiment, c'est des centons, des collections de citations de la parole de Dieu. Ce qui fait qu'Élisabeth est facile à lire. Ce n'est pas des traités sur les théoriques, mais elle nous plonge dans la parole de Dieu.
Et c'est concret.
Absolument, oui.
D'accord.
Comme la parole de Dieu qui est concrète.
Eh oui, tout à fait, qui est incarnée. Oui.
C'est-à-dire qu'elle commence donc le ciel dans la foi, donc adressée quand même à une maman, mariée à un banquier, donc avec tous les tracas de la vie donc d'une maman. Et elle dit bien que notre demeure, c'est la très sainte Trinité, c'est notre maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir. Alors comment demeurer dans notre chez nous? Mais c'est justement en sortant de nous-mêmes, précisément. Et Élisabeth, elle parle volontiers de son secret. Secret du bonheur, ben c'est de nous oublier nous-mêmes. Ça pourrait être simplement une maxime, si vous voulez, de la vie toute simple. Mais elle est spiritualiste, si vous voulez. Parce qu'on dit, c'est vrai que sortir de soi-même, le travail qu'on faisait à l'époque, Élisabeth, ça rend heureux. Bon. Mais elle dit bien, notre vie ne doit pas être banale. Elle insiste beaucoup là-dessus. Notre vie doit être vécue dans la foi, ce qu'elle appelle la belle lumière de la foi, et ne pas banaliser tout événement et sacrement de la volonté de Dieu. Toute rencontre, c'est le Seigneur qui vient à nous. Et ça change la vie, comme on dit.
Oui, exactement, ça change la vie.
Ça suppose une vie dans la foi. Élisabeth a vécu tout ça certainement dans une foi très aride.
Alors justement, on va parler de tout ça après la pause musicale. Je vous propose, frère François Marjat, de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », donc écrit par sainte Élisabeth de la Trinité et interprété par l'Oratoire de la Sainte Famille.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le frère François Marjat Carme pour nous parler de Sainte Élisabeth de la Trinité. En 1899, Élisabeth lit Le chemin de la perfection de Thérèse d'Avila. Les écrits de la Sainte confirment son intuition sur l'oraison et elle dit « Il me semble qu'il est là ». Que nous enseigne précisément Élisabeth de la Trinité sur l'oraison elle-même?
Alors, Élisabeth de la Trinité était à l'école des grands saints du Carmel. Donc, elle lisait Sainte Thérèse d'Avila, comme vous dites, donc, avant de rentrer au Carmel. Et étant au Carmel, elle a lu Saint Jean de la Croix, chez qui elle a trouvé d'ailleurs ses délices, bon, des confirmations de ce qu'elle vivait à un très haut niveau de contemplation. Donc il y a déjà ces temps assidûment carmélitains. Bien sûr, il y a sa lecture de la parole de Dieu. Bon, il faut aussi des grâces de l'Esprit-Saint particulières, grâce, on peut dire, d'intériorité, mais intériorité qui ne la replie pas sur elle-même, mais qui l'ouvre au monde. Et notamment, elle est d'une très grande proximité, d'une très grande délicatesse, on le voit dans sa correspondance au Carmel, avec... Donc, des gens qui sont souffrants dans la maladie, pour ne pas dire dans la déprime d'ailleurs. Hein. Bon. Elle s'intéresse par exemple à une maman qui a perdu son premier bébé, bon. À une maman qui a perdu sa fille, donc, ou une dame qui a perdu son mari. Hein. Elle s'intéresse aussi pour des mamans qui s'inquiètent de trouver donc, un mari pour leur fille. Bon. Elle fait cette promesse, quand je serai là-haut, bon, étant malade à la fin de sa vie, je trouverai un gentil mari pour Jaja. Bon. Donc elle est vraiment, elle est une immense délicatesse pour ses correspondants, soit donc sa maman, sa sœur, soit des amis de la famille, des amis d'enfants, des amis de jeunesse aussi. Et ces délicatesses, en fait, c'est celle du Christ. Quand elle dit, en reprenant une parole de Monsieur Gay, donc, qu'elle voulait être une humanité de surcroît par rapport au Christ, eh bien, elle l'a été dans cette délicatesse de cœur, dans cette tendresse qu'elle a rayonnée. Elle a rayonné Dieu, elle a rayonné la bonté de Dieu.
Et justement, dans ces nombreuses lettres qu'elle écrivait, c'est une manière de voir sa foi qui rayonne. Et comme vous le dites, frère François Marjat, avec délicatesse, elle partage avec ses amis sa foi. Et donc, elle laisse aussi un exemple d'évangélisation, si on peut dire.
Oui, notamment, elle parle de la manière dont elle fait oraison. Et de cette manière, elle essaye d'entraîner ses correspondants sur le chemin de l'oraison, le chemin d'union intime, d'une relation vivante avec le Christ. Et elle leur dit finalement qu'elles n'ont qu'à se retirer dans ce qu'elle appelle le ciel de leur âme, et c'est la réalité. Hein. La Trinité est en nous, donc le ciel est en nous. Bon, les saints bienheureux sont dans la Trinité. Donc, et elle leur dit, en fait, faites silence en vous-même. Faites silence vous-même. Mais ce silence chez Élisabeth n'est pas le vide. Ça n'a rien à voir avec le vide, c'est un silence plein, plaigné.
De la présence de
oui.
Dieu.
Et quand on lit, quand on médite la prière donc, qu'on a passée, si vous voulez, durant la pause, là, on me dit, c'est que j'adore. Et Élisabeth, elle part de demeurer immobile dans le silence. Mais ensuite, elle dit qu'elle veut... s'accorder à tous les mouvements de l'âme du Christ. C'est très frappant, cette expression, chez Élisabeth, les mouvements de l'âme du Christ, que la pure d'ailleurs recevoir d'un prédicateur, mais en tout cas, elle a fait sienne. Et en fait, ce mouvement de l'âme de Christ, c'est ce regard éternel d'amour du Verbe vers le Père. Et pour longtemps, on a lu le prologue de Saint Jean, à Noël. Eh bien, le Christ est éternellement, le Verbe est éternellement tourné vers le Père. Et nous devons être en présence de Dieu de manière permanente, ce qui suppose une vie de charité. Autrement, ça ne veut rien dire, si vous voulez, c'est des mots. Donc, être en présence de Dieu, se retirer dans le ciel de notre âme, c'est la vie de charité qu'Isabelle donc a pratiquée donc, lorsqu'elle a resté pendant plusieurs années dans le monde, comme on dit, pour obéir à sa maman. Et au Carmel, dans une communauté, il faut y aller ensemble. Hein, c'est pas forcément évident. Bon.
Oui, et d'ailleurs, elle explique à propos de l'oraison comment elle vit avec Dieu. Elle dit « Si mes désirs, mes craintes, mes joies, mes douleurs, si tous les mouvements provenant de ces quatre puissances ne sont pas parfaitement ordonnés à Dieu, je ne serai pas solitaire, il y aura du bruit en moi. »
Oui, ça c'est Isabelle, musicienne si vous voulez.
Oui,
hein.
C'est ça. Oui.
Alors c'est vrai qu'Isabelle était une virtuose du piano. Elle a pu faire une très belle carrière, sa mère l'a prédestinée à faire une carrière dans ce domaine. Et elle a renoncé à ça quand même pour le bon Dieu.
Oui, aussi, oui.
D'ailleurs, il y a un trait qui montre bien l'humilité d'Élisabeth, c'est qu'elle avait conscience que les applaudissements pouvaient susciter en elle des bouffées d'orgueil.
Eh oui.
Et on sait qu'il lui est arrivé de prier pour qu'elle soit en quelque sorte dispensée de participer à un concert. Et de fait, la veille du concert, elle a une otite qui l'a empêchée. Donc, son humilité était préservée. Et sa mère a préservé son humilité. Alors, l'oraison donc, d'Élisabeth, si vous voulez, elle laisse les gens très libres. Hein. Ce n'est pas une méthode, finalement. Hein. C'est porter son regard sur le Christ, spécialement quand on est souffrant, dans la souffrance, dans la peine. Elle dit « Élevons notre regard, contemplons la croix ». Quand on dit, on l'a dit d'ailleurs, un prêtre d'ailleurs qui est décédé depuis, qui a beaucoup écrit, beaucoup prêché sur la Trinité, il dit que Isabelle, c'était une jeune fille qui croquait la vie à belles dents, mais surtout qu'elle a accueilli, en fait, surtout, non pas, je dirais, ce qui est amer, mais elle a vraiment accueilli l'amour du Christ à travers ses exigences, qui se traduit de fait par la croix.
Oui.
Et s'il n'y a pas ça, ben notre oraison, ça va être simplement, ça risque d'être une nébuleuse, si on se contente soi-même.
Hein. Oui, c'est ça.
Il faut prendre le bon départ dans la vie d'oraison. Ou bien on va passer son temps, sa vie entière, à se contempler soi-même, à chercher des consolations, ou bien on va contempler, se laisser fasciner par Jésus. Ça, c'est vraiment aussi une expression de la prière, mon Dieu Trinité, que j'adore, hein. Fascinez-moi.
Hein. Ah, oui.
Fasciné par la beauté du Christ, hein, par son amour. Un amour éternel, le Christ qui porte son regard sur nous, qui nous appelle. Et ça va se traduire chez Isabelle, justement, par cet amour universel, comme elle a pu dire qu'elle distillait finalement donc son sang pour l'Église. Elle distillait sa vie pour l'Église.
Et alors justement, puisqu'on parle de l'Église, ça peut être intéressant aussi de voir dans quel contexte elle a vécu, cette Élisabeth de la Trinité. Elle est très enracinée dans l'Église et pourtant elle vit à une époque de grande persécution quand même, hein, puisque alors, en 1901, les religieux sont expulsés de leur couvent.
Alors, on a pu parler d'une persécution réelle. Alors, Élisabeth est une contemporaine, grosso modo, de Thérèse de Lisieux. Bon. Et de fait, la vie d'Élisabeth est encadrée, si vous voulez, par le bras de fer, si vous voulez, entre la Troisième République et puis l'Église. La Troisième République qui veut récupérer donc, l'enseignement. Hein. On sent bien si on a l'enseignement, eh bien, on a la jeunesse.
Et bien sûr.
Bon. Alors, de fait, au début du XXe siècle, les conditions sont massivement obligées de s'exiler. Et le Carmel de Dijon, comme si le Lisieux d'ailleurs, hein, était sous la menace d'un exil. Donc la prieure de l'époque est allée voir en Suisse, est allée voir en Belgique. Bon. On a même déménagé les meubles en Belgique. Bon, et puis finalement, les meubles, le Carmel est resté à Dijon, à part que les meubles s'étaient un peu abîmés en Belgique.
Donc les sœurs sont restées, mais pas les meubles. C'est ça.
Ben, les meubles, après, je pense qu'on les a rapatriés.
Bon.
Alors, il était quand même arrivé qu'à un moment donné, la chapelle était interdite au public quand même. Et qu'on a donc mis en lieu sûr les statues chez les particuliers, notamment l'enfant Jésus.
Et aujourd'hui, dans une période aussi où l'Église n'est pas forcément bien vue et avec aussi des profanations qu'on constate dans les Églises, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Élisabeth de la Trinité?
Alors, dans sa correspondance, on voit bien que, bon, elle est consciente, bon, d'abord, il faut prier pour la France, bon, elle dit l'avenir est sombre, bon, déjà, elle le dit au début du XXe siècle, bon. Bah, je pense qu'Élisabeth de la Trinité, alors, a été suscitée, si vous voulez, pour montrer la voie de l'espérance. À savoir, c'est une étoile, on parlait de l'étoile des mages il n'y a pas longtemps, là, pour le fait de l'épiphanie. Élisabeth est une étoile au ciel pour nous guider vers, donc, la véritable espérance, l'étoile qui est le Christ. Et on ne peut pas ne pas évoquer ce fameux discours d'un député à la Chambre qui, peut-être le jour même de la mort d'Élisabeth, a déclaré, en se gargarisant, on a éteint toutes ces étoiles, il faisait allusion au saint, la dévotion au saint précisément, la dévotion populaire, il a dit on a balayé tout ça, bon, dans un geste magnifique. Bon. Et ces étoiles ne vont plus se rallumer. Or, c'est précisément ce rôle-là qu'Élisabeth est en dans la gloire et qu'elle rayonne justement par sa doctrine, les écrits qu'elle a laissés, et elle rayonne finalement la véritable espérance. Nous venons de la Trinité et nous retournons à la Trinité. Bon. Mais ce n'est pas d'une abstraction, ça se vit dans le concret de l'amour du prochain.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez dans la charité. On termine, frère François Marjat, par la fin de la vie d'Élisabeth. Elle subit des grandes souffrances puisqu'elle est atteinte de la maladie d'Addison, qu'elle appelle la maladie de l'amour. Mais elle garde sa joie et elle dit « Je goûte, j'expérimente des joies inconnues, les joies de la douleur ». Comment c'est possible?
Alors, ça ne peut être compréhensible, si vous voulez, que chez des êtres qui sont arrivés à un très gros, très haut degré d'union à Dieu, où de fait, elles sont à la fois dans la douleur et en même temps dans la joie. Bon, mais c'est quand même, on n'y arrive pas, si vous voulez, du premier coup. Hein. Bon, et c'est vrai que Élisabeth, bon, cette maladie d'Addison, en fait, doit être, semble-t-il, la résultante d'une tuberculose qu'elle a donc contractée au Carmel, bon, qui ne s'était pas chauffée à l'époque. Bon. Et elle a quand même reçu des grâces exceptionnelles, à savoir que le jour de l'ascension, donc quelques mois avant sa mort, elle a eu du mérite expérimental. C'est plus qu'un sentiment, mais elle a expérimenté que Dieu faisait sa demeure en nous. Et elle en a témoigné. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que si, on peut dire, elle adorait sa maman, elle adorait sa prieure, la prieure de l'époque, elle avait une relation extrêmement amicale avec sa prieure, qui va se traduire par ce qu'on appelle le quatrième traité spirituel, laisse-toi aimer, qui est aussi d'ailleurs intéressant parce que, on peut dire, ça concerne tout le monde. Il faut se laisser aimer par le bon Dieu avant de... Dieu nous a aimés le premier. D'ailleurs, c'est l'autre cas d'ailleurs qu'on lit aujourd'hui, je pense, dans la première lecture. C'est Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Alors, c'est vrai que dans cette maladie où elle a énormément souffert, elle trouve un réconfort chez les auteurs spirituels comme Angèle de Foligno, grande mystique italienne. Et elle dépasse, si l'on peut dire, elle oublie sa souffrance en rédigeant ces magnifiques traités spirituels dans lesquels elle peut déclarer que pour elle, cette montée au calvaire, c'est le chemin de la béatitude. Et elle se compare à une reine qui gravit cette montée du calvaire à la droite de son époux qui est le Christ.
Et les sœurs l'entendront murmurer faiblement juste avant sa mort, « Je vais à la lumière, à la vie, à l'amour ».
Et d'ailleurs, ça résume le prologue de l'évangile de Saint Jean. Tout à fait, oui.
C'est ça. Et donc, Élisabeth de la Trinité meurt, nous l'avons dit, à l'âge de 26 ans. Elle laisse donc ses quatre grands écrits dont vous avez parlé, et puis cette prière « Ô mon Dieu, Trinité » que j'adore.
Et les lettres et les poésies qui sont en parfaite concordance avec ses écrits. De toute façon, la prière « Ô mon Dieu, Trinité » que j'adore résume en fait tout ce qu'elle a vécu.
Toute sa spiritualité, avant et après. Ouais, toute sa vie. Donc, une prière à méditer encore... Encore et toujours, et à s'approprier finalement.
Oui, bah, c'est un chemin pour une vie entière, c'est un chemin de conversion, c'est une consécration, si vous voulez. C'est un chemin de conversion qui n'est jamais fini.
En tout cas, merci beaucoup, frère François Marjan, de nous avoir fait découvrir cette belle figure de sainteté qui est Élisabeth de la Trinité. Je signale la vénération de ses reliques, donc les 17 et 18 janvier, au couvent des Carmes. Merci infiniment.
Merci, Isabelle.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.